quatrième et dernier temps de notre série consacrée aux politiques environnementales. Aujourd'hui, le débat du jeudi sera consacré à une histoire des risques industriels. Après avoir évoqué lundi l'intérêt de l'histoire des politiques environnementales à propos des Seychelles ou par exemple de l'Éthiopie, puis mardi suivi la question de l'invention des abattoirs dans nos villes, c'était le documentaire de Catherine de Copé et Séverine Cassard que vous pouvez réécouter sur le site de France Culture et télécharger également. Et après avoir hier parlé des politiques environnementales dans la Rome antique, nous allons ce matin nous demander ce qu'est le risque industriel et comment ces risques industriels ou ce risque industriel a été pris en compte au 18e, au 19e et au 20e siècle avec Thomas Leroux. Il est historien chargé de recherche au CNRS. Il est auteur en 2011 du laboratoire des risques industriels chez Albin Michel et il vient de coordonner aux presses universitaires de Rennes risques industriels, savoir, régulation, politique d'assistance fin 17e, début 20e. Nous serons également en compagnie d'Isabelle Lespinet-Moret. Elle est professeure à Paris 1 sur la chaire travail, mobilisation et politique sociale. Elle est auteure entre autres de Origine, donc OIT, Organisation internationale du travail Origine, développement et avenir avec Vincent Viette et d'une habilitation à diriger les recherches qui sera bientôt publiée qui porte sur la santé au travail et justement cette OIT, Organisation internationale du travail. Et enfin, Xavier Daumalin est avec nous également. Il est professeur à Aix-Marseille et il est directeur de l'UMR TLM, toujours à Aix-Marseille. Il est directeur de l'ouvrage qui vient de paraître, Histoire industrielle des calanques et de leur pollution, une histoire au présent chez REF de C éditions. Bonjour Isabelle Lespinet-Moret.
Bonjour.
Merci d'être à nouveau avec nous dans la Fabrique de l'Histoire. Je rappelle que vous êtes donc spécialiste du travail, de la mobilisation et des politiques sociales, puisque c'est le titre de votre chaire donc à Paris 1, où vous venez d'être élu en l'occurrence. Et puis Xavier Daumalin, merci d'être avec nous aussi, d'être venu depuis Aix-Marseille, là où vous enseignez et où vous dirigez l'UMR TLM. Nous attendons le troisième larron de notre table ronde qui ne saurait tarder, à savoir Thomas Leroux. Alors, cette question des risques industriels, il y a diverses manières de l'apprendre quand on est historien. Isabelle Lespinet-Moret, il y a évidemment la question de la législation, des façons dont les législations nationales mais aussi les normes internationales ont permis de l'aborder, cette question des risques industriels, et puis il y a d'autres manières également.
Oui, alors il y a déjà une manière qui est celle de l'environnement, hein, celle de l'histoire de l'environnement, et puis il y a celle de l'histoire de la santé au travail, du risque professionnel, hein, des risques du métier. Et donc cette question des risques professionnels, on peut l'aborder soit par la naissance et reconnaissance des maladies ou des accidents par le biais donc des savoirs l'échelle transnationale est effectivement assez efficiente, hein, pour le faire. Et puis on peut l'aborder également bien sûr par les politiques mises en œuvre pour contrer ce risque ou pour le prévenir ou pour le réparer. Et là bien sûr l'appareil législatif est au cœur de la réflexion.
Xavier Daumalin, c'est vrai que d'une certaine façon cette question des risques industriels en tant que tels qu'ils sont présentés aujourd'hui dans le domaine historique et historiographique, n'était pas une question qu'on se posait forcément sous ce nom-là, sous ce terme-là, il y a maintenant, mettons, une quinzaine ou une vingtaine d'années. Cela commence à émerger doucement comme un nouveau secteur sur lequel on peut travailler quand on est historien ou historienne.
Oui, tout à fait, mais en même temps, dans les pratiques, et pour les populations concernées, ce sont des problèmes qui se posaient très tôt, dès le tout début du 19e siècle. Donc on a souvent tendance à imaginer que c'est vrai que dans nos sciences sociales, c'est une problématique qui émerge dans les années 60, mais pour le quotidien des populations, ce rapport de force entre industriels, riverains, experts, administration publique, est là très tôt, dès les premiers pas de l'industrie. C'est en tout cas le cas en Provence, dès le début du 19e siècle.
Oui, c'est ce qu'explique aussi dans ses travaux Thomas Leroux. Il dit, en fait, on aurait tort de se cadrer sur le début du 19e siècle ou le milieu du 19e siècle, c'est-à-dire ce moment moment qu'on appelle régulièrement, et même si c'est contesté par certains historiens, donc la révolution industrielle ou les révolutions industrieuses, parce qu'il faut remonter plus haut, il faut remonter peut-être au 17e, aux premières manufactures, les grandes manufactures d'État par exemple, ou peut-être encore plus haut si on s'intéresse à la question du risque lui-même qu'une population peut courir à vivre dans une ville. Et là, il faut remonter plutôt du côté du milieu du 17e siècle avec le grand incendie de Londres. Et en remontant plus haut, ça permet de mieux comprendre, dit Thomas Leroux, ce qui s'est passé ensuite et de mieux l'inscrire dans une histoire longue, Xavier Daumalin.
Oui, c'est exact. Le problème existe depuis longtemps. Ce qui change, c'est le mode de régulation de cette situation. Et effectivement, ce qu'a démontré Thomas dans son ouvrage, c'est qu'il y a un grand changement qui se produit au tournant des 18e et 19e siècles.
Oui, sur ce point, Isabelle Lespinet-Moret, en redonnant de la temporalité plus profonde, pourrait-on dire, à ces questions-là, et en ne se cantonnant pas sur le siècle et demi qui vient de s'écouler, par exemple, on a une meilleure compréhension des événements, Isabelle Lespinet-Moret ?
Sans aucun doute. Thomas Leroux sera bien plus à même que moi d'en parler, mais quand même, il y a un effet amplificateur par l'industrialisation, un effet amplificateur, et on peut parler effectivement de régime de risque industriel. Et le tournant du 19e au 20e siècle, lorsque à la fois on a une industrialisation qui s'est amplifiée, des états-providence qui sont en cours d'élaboration et un système d'assurance privée ou mutualistes qui se mettent en place, là on a effectivement les trois ingrédients essentiels, je pense, hein, pour comprendre la façon dont ces sociétés appréhendent le risque.
Alors si on remonte un peu plus haut dans le temps, puisque ça fera peut-être le début de notre discussion avec Thomas Leroux qui vient d'arriver dans notre studio, eh bien on peut se dire qu'il y a maintenant 3 semaines de cela, c'était même pas une quinzaine de jours, à la télévision britannique, un direct se déroulait, c'était un direct pour célébrer le 350e anniversaire du grand incendie de Londres, le Great Fire.
We're moments away from witnessing history in the making. 350 years ago, right here on the River Thames in London, on this very day, the backdrop behind me, not far over there, would have been fully ablaze in one of the most spectacular catastrophes in the city's history. We're here tonight with a fire of our own to commemorate that event. It's a fire that also represents the major challenges faced by big cities to this day, our response to crisis and our ability to adapt, adjust and rebuild. It's time to immerse yourself in London 1666.
Temps de se plonger, dit la présentatrice de ce direct donc à la télévision britannique, il est temps de se plonger dans l'année 1666. Thomas Leroux, bonjour, merci d'être avec nous. Effectivement, cette année 1666, vous lui attribuez sinon des vertus, en tout cas un intérêt quand on est historien des risques, et en particulier historien des risques industriels, mais pas simplement. Parce que, tout compte fait, c'est un moment important pour la Grande-Bretagne, c'est un moment aussi important pour le reste de l'Europe, parce que tout le monde est un peu impressionné par ce qui se déroule, c'est-à-dire qu'une grande ville comme Londres est en grande partie détruite par un incendie gigantesque. Et dans la préface au numéro du Mouvement Social, qui a été publié en 2014, que vous avez coordonné sur l'émergence du risque industriel, vous dites, eh bien, cette date de 1666 est un moment important parce que, en particulier, elle va permettre de se poser la question des assurances et des assurances privées sur les habitations qui peuvent prendre feu, qui est déjà un début de prévention justement de ces risques.
Alors tout à fait, c'est un moment important. D'une part, l'événement est spectaculaire. Bon, le risque d'incendie a été un des grands fléaux des villes depuis le Moyen-Âge jusque tard dans le 19e siècle. Cet incendie de Londres a détruit une grande partie de Londres. Il est d'origine, il proviendrait d'un fourneau de boulanger, en fait. De fait, la question des fourneaux dans les villes a été questionnée avant cet incendie, mais également après, pour les questions de prévention. C'est aussi un grand moment au niveau de l'événement pour la naissance des assurances, puisque peu de temps après, les premières assurances anglaises voient le jour. Et la Grande-Bretagne veut inventer en fait un système de prévention qui repose et de réparation qui repose essentiellement sur l'assurance comme technique de résolution du risque.
Et donc dans ce numéro que vous avez coordonné du mouvement social qui date de 2014, l'émergence du risque industriel, vous faites un parallélisme, pourrait-on dire, entre la façon de faire des Britanniques et la façon de faire, par exemple, des Français. C'est une histoire comparée entre France et Grande-Bretagne entre 18e et 19e siècle. Et vous y dites d'une certaine façon qu'on invente un mode de prévention des risques très particulier dans une Angleterre très libérale déjà économiquement, qui est justement ce mode de prévention des risques par l'assurance privée, tandis que progressivement, même si les deux systèmes vont se conjoindre donc dans les années du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, progressivement, de l'autre côté, on va inventer une prévention ou une façon de faire qui sera peut-être plus normalisée, en particulier par l'État en France.
Alors tout à fait, les assurances sont interdites en France tard dans le XVIIIe siècle et les premières assurances incendies en France naissent en 1819, c'est-à-dire très tard par rapport à l'Angleterre. Et donc en France, nous avons un mode de gestion qui est plutôt lié à la puissance publique, qui va donc être un ensemble de préventions normatives avec des interdictions, des règlements très, très pointus que la police ou que les polices locales doivent observer. Et puis, en cas d'accident, des réparations qui prennent la forme de collecte publique, à la fois par la puissance publique, donc les autorités locales, ou par la charité, c'est-à-dire les églises, en fait, qui se chargent bien souvent de collecter les fonds pour aider les victimes, en fait.
Avec donc deux systèmes qui sont très différents, mais qui progressivement vont se rapprocher, vont se matiner l'un l'autre d'une certaine façon pour faire une nouvelle façon de concevoir la question du risque, en particulier du risque industriel, après ce qu'on a appelé régulièrement la révolution industrielle, Thomas Leroux.
Alors tout à fait, il y a un rapprochement entre les deux systèmes et pour être plus précis, c'est le modèle anglais qui va devenir dominant. Il devient dominant en Allemagne, si on regarde l'Europe continentale, dès la fin du XVIIIe siècle et le tout début du XIXe siècle. Et puis ensuite, il s'étend avec beaucoup plus de résistance en France. Et c'était un moyen, en fait, d'acculturer l'industrialisation dans les sociétés, puisque avec les systèmes d'assurance, on arrive à un système de gestion de gré à gré entre l'industriel et son assureur. Sans passer par des normes et des règlements qui seraient prohibitifs ou gênants pour l'industrialisation.
Oui, parce qu'il faut dire tout de même que l'industriel n'est pas toujours et parfois un peu rétif à ces façons de protéger et ses ouvriers et l'environnement alentour. Et donc que cet industriel va devoir négocier avec une puissance privée l'assurance qu'il va contracter pour pouvoir protéger ses biens, plutôt que de négocier avec l'État, avec la puissance publique et donc avec la difficulté de pouvoir peut-être même maîtriser ce qui va lui arriver.
Alors, tout à fait. Les industriels, en général, redoutent les règlements et ils essaient d'en sortir. Avec le système de l'assurance, il va y avoir effectivement une négociation privée. Ça va avoir une vertu, ça va être d'améliorer un certain nombre de dispositifs techniques parce que les assureurs mettent des premiums très très élevés si l'industriel ne respecte pas certaines dispositions. Donc finalement, ça va avoir une vertu,
oui,
c'est d'améliorer.
On a souvent vu en France effectivement ce système d'assurance comme étant négatif parce que la tradition française de recours à l'État imaginait qu'effectivement il n'y avait pas d'amélioration possible avec ces questions d'assurance. Mais vous expliquez très bien, Thomas Leroux, que eh bien oui, dans les normes, dans la façon de protéger à la fois son bien et les gens qui y travaillent, eh bien ce système d'assurance a tout de même réussi en Grande-Bretagne et peut-être ailleurs à améliorer les choses au fur et à mesure du 19e siècle.
Tout à fait, parce que les compagnies d'assurance avaient par ailleurs des inspecteurs qui allaient justement dans les usines pour vérifier si les fourneaux, les cheminées, les dispositifs techniques étaient sécurisés ou à quel taux ils allaient être assurés. Alors que la puissance publique n'a pas forcément les moyens de faire ce contrôle, en tout cas elle ne l'avait pas au 19e siècle. Et donc, d'une certaine façon, le système d'assurance était efficace pour améliorer certains système technique.
Oui, alors Xavier Domalin, vous avez un exemple d'une révolution entre guillemets industrieuse, sinon industrielle, à la fin du 19e, du 18e siècle, du côté de Marseille, ce sur quoi vous travaillez, puisque c'est l'invention, pourrait-on dire, entre les années 1790 et l'application dans les années 1810, d'une nouvelle manière de faire de la soude. On sait combien déjà il y avait des industries liées au savon à Marseille, déjà dès ce 18e siècle. Pour faire ce savon, il faut de la soude. Et pour faire cette soude, jusqu'à maintenant, on utilisait une soude végétale qu'on allait généralement quérir du côté de l'Espagne. Et une invention du côté de 1791, je crois, d'un industriel français, Leblanc, d'un chimiste français, va chambouler les choses en inventant une nouvelle manière de faire cette soude et permettre le développement d'industries soudières, donc dans la région de Marseille, ce qui ne se passe pas si bien que cela, parce que c'est assez compliqué dans des endroits où il n'y a pas justement d'industrie, dans des petits villages en particulier, que d'installer ces villages dans les années 1810-1820.
Oui, tout à fait. Alors cette industrie de la soude, vous l'avez dit, est liée à l'importance de la savonnerie marseillaise qui en 1789, par exemple, représente à elle seule 40% du total de la valeur de la production marseillaise. C'est vraiment le poids lourd du port de Marseille qui fonctionnait jusque-là avec de la soude végétale, qui venait donc principalement d'Espagne. On connaissait le procédé Leblanc depuis 1789, mais surtout il est tombé dans le domaine public à partir de 1791. Mais les industriels n'étaient pas soucieux de l'industrialiser pour deux raisons. Un, il était très polluant en dégageant des quantités importantes de gaz d'acide chlorhydrique. Et deux, il n'était pas rentable par rapport aux soudes végétales. La fluidité du marché méditerranéen permettait d'importer ces soudes végétales à bas prix.
Oui, c'est ça. C'était moins cher de faire venir de la soude végétale depuis l'Espagne.
L'investissement industriel ne se justifiait pas jusqu'à ce qu'arrive le coup de pouce des circonstances. C'est une guerre, la guerre entre la France et l'Espagne, qui interrompt les importations de soude végétale. Et puis surtout, la politique de Napoléon Ier, qui comprend l'intérêt de cette jeune industrie, sans doute poussée par Chaptal, et qui décide de la protéger.
Alors Chaptal, il faut quand même dire, parce que notre ami Chaptal, il a quand même été responsable de plein de choses. Enfin, les Chaptal, parce que le père et le fils, en l'occurrence, puisque Jean-Antoine, donc lui aussi dignitaire, on en parlait la semaine dernière dans le dictionnaire, dans la vie intellectuelle en France, il est considéré par les auteurs de la vie intellectuelle en France comme étant un des grands dignitaires, un des grands intellectuels du régime bonapartiste et puis napoléonien. Lui, il est responsable du procédé qui a mis en place la poudrerie de Grenelle, Thomas Leroux, 1794, plus de 1000 morts, c'est ça? Enfin non, plus de 1000 victimes en l'occurrence, c'est ça?
Voilà, en fait, la poudrerie de Grenelle a explosé le 31 août 1794. Elle était dirigée par un homme qui s'appelait Leroux, comme moi. Mais la responsabilité politique, puisque nous sommes en révolution, c'était l'agence des poudres et salpêtres qui décidait de tout, était dirigée par Chaptal, effectivement.
Oui, et parce qu'il y avait urgence, en l'occurrence, à produire de la poudre pour pouvoir mener les guerres de la Révolution. On avait fait, de façon un peu rapide, une immense poudrerie de l'autre côté de la Seine, en face de la maison de la radio, qui explose et qui va poser la question justement de qui va protéger, qui va indemniser les victimes et les familles des victimes de cette poudrerie. Ça, c'est en 1794 et vous avez déjà travaillé sur ce sujet, Thomas Leroux, et le fils de ce même Chaptal est propriétaire d'une des deux grandes usines de soude à partir de 1810 dans la région marseillaise. Et ça ne se passe pas très bien non plus, Xavier Domalin.
Effectivement, ça ne se passe pas très bien parce qu'on a un véritable boom industriel à partir de 1809. On a à peu près une trentaine d'entrepreneurs qui se lancent dans cette activité. Donc on a une vingtaine d'établissements qui sont créés avec beaucoup de rejets de gaz d'acide chlorhydrique. Et les riverains, évidemment, n'apprécient pas beaucoup ces dégagements gazeux qui détruisent les récoltes, qui ruinent leurs revenus.
Qui pourrissent les étangs.
Qui pourrissent les étangs. Au dire de certains pêcheurs, mais bon. Et puis surtout qui rendent leur propriété sans valeur. Donc c'est l'héritage qui est touché et ils ne peuvent plus transmettre à leurs enfants de propriétés rentables et intéressantes. Donc ils sont à la fois touchés dans leurs revenus, mais aussi dans la valeur de leur capital.
Alors ce qui est très intéressant quand on suit vos travaux sur cette question, Xavier Domalin, c'est qu'on voit une sorte de trio, l'État en l'occurrence, les industriels et ce qu'on pourrait appeler l'opinion publique, c'est-à-dire ceux qui se trouvent autour, les riverains en tous les cas, et que ce trio, ben, on va le retrouver assez souvent dans ces questions de risques industriels un peu partout et en particulier au 19e et 20e siècle. En l'occurrence, on va nommer un comité, enfin le comité d'hygiène publique de Marseille va être saisi par les autorités en 1810, ils vont visiter les usines de soude à côté de Marseille, ils vont dire bah il faut pas que ça soit à moins de 1000 mètres des habitations, ça serait possible, ça serait bien, parce que comme ça, ça protégeait les habitants. Ou alors, il faut les installer au fond de vallons stériles, et comme ça, les vapeurs de cette industrie ne toucheront pas les habitants, puisque les vallons sont eux-mêmes stériles, et il n'y aura pas de gens qui seront touchés. Donc, ce sont des sortes de pis-aller qui sont mises en place, d'autant qu'un des industriels invente un procédé qui, par des conduits, va conduire la fumée nocive jusqu'au sommet des calanques de Marseille, des petites collines des calanques de Marseille, et ça va permettre, théoriquement, à ce que les gens ne soient pas touchés. Donc il y a tout un tas de petits arrangements pour pouvoir continuer à faire de la soude alors que c'est dangereux pour la population, Xavier Daumalin.
Oui, absolument. Il y a une volonté de la part de l'État et du préfet de vraiment protéger, de maintenir cette activité. Et lorsqu'elle est trop menacée, eh bien, on décide effectivement de valider ces fameuses cheminées rampantes qui sont censées dépolluer les fumées, les décharger de leur acide chlorhydrique. Et alors la population conteste la performance de ce procédé, mais le préfet l'a validé, et à partir du moment où il l'a fait valider par le conseil de salubrité, eh bien, ça permet de dévitaliser les protestations et ceux qui avaient porté plainte contre... Alors, comme on a fait des travaux sur ce qui s'était passé après, on s'est aperçu que les mêmes experts qui avaient validé ce procédé, eh bien, 4 à 5 ans plus tard, reconnaissent qu'en réalité, ils ne condensent que 30% de l'acide contenu dans la cheminée, et donc on peut se demander si, derrière tout ça, il n'y a pas une sorte de coup de force administratif pour sauver les usines de soude.
Oui, parce que vous savez bien, et on en parlera peut-être un peu plus tard, qu'effectivement, entre maintien de l'emploi, maintien de l'économie et de l'autre côté risque industriel, il y a une sorte de bras de fer qui se déroule. Enfin, tout de même, en 1815, à partir de 1815-1820, beaucoup de ces usines de soude sont obligées de se déplacer. Enfin, ils décident de se déplacer. Ils vont aller d'ailleurs dans des endroits qui sont des paradis aujourd'hui, Porquerolles, Porquerolles. Ils vont s'installer dans Augoude, par exemple.
Les Zambiers aussi.
Voilà, dans des endroits absolument magnifiques, qui ont été donc des endroits d'usines, parce que d'une certaine façon, ça permettait de déplacer les usines dans des endroits qui étaient moins peuplés et tout de même d'y installer des ouvriers avec un peu de paternalisme, parce que tout compte fait, dites-vous, Xavier Daumalin, les derniers à être intéressés au sort de cette affaire, ce sont quand même les ouvriers, parce qu'on se préoccupe en tant que voisin de la rentabilité de ses propres terres et de ses propres propriétés. Mais tout compte fait, les gens qui y travaillent, ils sont nombreux, ils sont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, on s'en occupe peu.
Non, et pourtant, à cette époque-là, ils vivent, il faut le concevoir, dans une sorte de smog d'acide, avec des pathologies assez graves, perte du goût, de l'odorat, problèmes pulmonaires, problèmes olfactifs, problèmes de vue, etc. Donc, c'est déchaussement des dents, ce sont des pathologies assez lourdes. Ce sont aussi des populations étrangères. Hein. Dans cette usine, on voit surtout des ouvriers italiens avec un fort turnover, ceci expliquant peut-être un peu cela. Hein. Et puis aussi, il y a la législation qui ne prend pas en compte, à ce moment-là, encore le sort des ouvriers, et ça, c'est ce que Thomas a montré dans son ouvrage.
Oui, Thomas Leroux, sur cette question de d'abord s'intéresser à ceux qui sont autour avant de s'intéresser à ceux qui sont dedans, dans ces risques industriels. Bon, c'est vrai que la poudrière de Grenelle, on a pris en charge parce que c'était en pleine révolution et que les changements des mentalités imaginaient qu'on pouvait faire une politique d'assistance. On a pris en charge les survivants, les familles des survivants. Mais enfin, ça prendra du temps tout de même, ces questions-là.
Oui, d'autant plus que lors de l'explosion de la poudrerie de Grenelle, les victimes ont été prises en charge, mais elles ont été reconnues comme assimilées à des militaires, puisque c'était une production guerrière. Et que nous étions en période de guerre contre l'étranger. Donc c'était une reconnaissance d'exception, on va dire. Le nouveau régime libéral qui se met en place au XIXe siècle, effectivement, écarte complètement les ouvriers de la sphère de l'assistance ou de la prévention. Et on assiste en quelque sorte à un grand effacement du corps de l'ouvrier qui va pourtant ressurgir au courant du XIXe siècle parce que des accidents, il y en a beaucoup parfois. Le patron ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité et que, à partir des années 1860, certains patrons vont être poursuivis en justice pénale. Il faut donc que l'autorité publique réagisse.
Oui, parce qu'auparavant, tout de même, il faut quand même dire, Thomas Leroux, que en France, en tous les cas, La question, c'est surtout le secours mutuel, c'est-à-dire ce sont les syndicats ou les crypto-syndicats qui n'existent pas encore, la façon dont s'organiser entre soi des ouvriers, qui va permettre à ceux qui sont touchés par une pollution industrielle ou un risque industriel d'être secourus, mais surtout pas ni des assurances, ni un État qui, jusqu'à ces années-là, est relativement défaillant dans ce domaine, Thomas Leroux.
Alors, c'est vrai que jusqu'à la fin du 19e siècle, les sociétés de secours mutuels ont en quelque sorte amorti le choc industriel des maladies et des accidents qui avaient lieu dans les usines. Parfois, certains patrons pratiquaient une politique paternaliste, donc eux-mêmes créaient leur propre caisse de secours. C'est le cas dans des grandes usines comme au Creusot, par exemple, ou les villages-usines. Et puis parfois, en cas d'accident, les ouvriers pouvaient saisir la justice pour obtenir des compensations et des indemnisations. Et la justice devait trancher sur le montant de ces indemnisations.
Sur ce point, Isabelle Lespinet-Moret, vous qui êtes justement plutôt spécialiste d'un moment plus tardif, c'est fin 19e et début du 20e siècle surtout, où tout cela va se normer, va s'installer, etc. Effectivement, cette question de l'oubli de l'ouvrier dans le risque industriel est une question qui va émerger progressivement dans la deuxième moitié du 19e siècle pour devenir un peu plus importante à partir de la guerre de 14 et de la création des grandes instances internationales que sont par exemple l'OIT ou le BIT.
En effet, alors ça tient déjà à une première chose, c'est que l'accident du travail ou la maladie professionnelle est peu spectaculaire, hein, à quelques exceptions près, 1906 Courrière avec 1099 morts, mais sinon, en général, c'est un mort par-ci, deux morts par-là. Et donc, c'est pas aussi spectaculaire pour les journaux de l'époque, hein, que les incendies ou explosions. Alors, ça, c'est une des raisons de l'oubli un peu de l'ouvrier. Et puis, bien sûr, c'est la question de la représentation de ces ouvriers. Hein. Donc, dans un premier temps, il y a quelques organisations syndicales ou professionnelles ouvrières qui prennent en charge cette question de la santé ou du risque professionnel, notamment chez les allumetiers, l'industrie du tabac, les peintres, enfin des professions comme ça très organisées. Mais pour beaucoup, il n'y a pas de relais de la parole ouvrière et du savoir aussi par rapport aux risques. Et finalement, ce sont à la fois les industriels eux-mêmes qui, à la fin du 19e siècle, vont prendre en charge cette question intellectuellement, hein, parlant, de l'accident du travail et les réformateurs sociaux. Hein, pour des raisons différentes, évidemment. Mais sauf que les intérêts vont converger. Enfin, l'intérêt vers une prévention et une réparation vont converger, mais pour des motivations très différentes, évidemment. Hein, les industriels veulent surtout se substituer à l'État, enfin, ou éviter que l'État légifère, et donc vont commencer à se réunir dans les années 90 pour discuter, voir comment on fait par rapport aux risques.
France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Et à 9h33 sur France Culture, vous écoutez une émission consacrée dans la série que nous consacrons depuis lundi à la question des politiques environnementales, consacrée donc à l'histoire des risques industriels. On parlait tout à l'heure avec Isabelle Lespinet-Moret, Thomas Leroux, de la catastrophe donc qui était liée à la catastrophe de Courrières, donc une catastrophe minière très importante, un coup de grisou plus important que les autres qui tue des centaines de personnes. Cette catastrophe minière est très importante au début du XXe siècle, en 1906, alors que la République légifère depuis un certain temps sur des lois sociales en particulier. Mais moi, j'ai été surpris en vous lisant de découvrir que cette question des mines est peut-être encore plus loin que l'incendie de Londres dont on parlait tout à l'heure. Le moment, enfin le lieu, la mine est le lieu où on va se préoccuper plus tôt, très tôt, de la question de la protection de ceux qui travaillent dans cette mine dès Henri IV.
Tout à fait, parce que la mine, c'est un des métiers les plus dangereux, en fait, qui existe. Et en particulier, dans les premiers temps de l'exploitation minière, c'était des galeries qui étaient très friable qui pouvait s'effondrer, des coups de grisou qui pouvaient évidemment arriver puisque l'éclairage était juste à l'aide de chandelles ou de bougies. Donc c'est un lieu très très dangereux, c'est un laboratoire en fait de la sécurisation au travail. Et les ingénieurs des mines, au cours du 19e siècle, mais même avant en fait, ont été un peu à la pointe d'une réflexion sur... comment sécuriser le travail, comment indemniser, tout en ayant pour la priorité quand même de continuer
l'exploitation. Oui, ben, vous dites par exemple que sous Henri IV, donc il y a un arrêté de l'État, du roi, qui décide que, alors c'est minimal, hein, pour soutenir les mineurs qui seraient blessés, il doit y avoir dans chaque exploitation un prêtre. Bon. C'est sûrement pour l'extrême onction, j'imagine, et un chirurgien qui permettrait effectivement d'amputer ou d'aider celui qui a été blessé dans un effondrement de galerie de mine. Ça, c'est dès 1604, donc dès le début du XVIIe siècle. Et cette législation de 1604 et d'Henri IV sera remise à l'honneur d'une certaine façon au début du XIXe siècle par ces mêmes ingénieurs des mines qui vont la reprendre et la faire retravailler d'une certaine façon, Thomas Leroux.
Oui, il est assez frappant en fait de voir à quel point il y a une forme de continuité dans les régulations du XVIIe à nos jours, dans le sens où la puissance publique, au départ, où des compagnies minières vont d'une certaine façon essayer de prévenir le risque et de le réparer. Alors évidemment, il y a la gestion collective des masses et des ouvriers qui est en jeu, c'est-à-dire que la main-d'œuvre, il faut qu'elle soit en bonne santé pour pouvoir produire. Donc, mais il y a quand même ce souci qui existe de bonne charité ou de grand patronage pour le bien de ses employés.
Oui, Isabelle Lespinet-Moret, ça pose aussi la question, quand on travaille sur cette question du risque industriel, de qui sont les acteurs de cette appréhension du risque. Alors, on a dit, il y a l'État, il y a les assureurs, il y a les industriels eux-mêmes parfois, il y a des ingénieurs, etc.
Il y a les ouvriers, il y a les médecins. Et c'est sans doute ce qui complique l'appréhension de cette question de la santé au travail, c'est la multiplicité des acteurs avec évidemment des intérêts divergents. Alors c'est vrai aussi que peu à peu la question de la santé ou du risque professionnel devient une question sociale à part entière. Et c'est à partir de cette prise de conscience qu'on peut dater quand même à grande échelle à la fin du 19e siècle, me semble-t-il, et en témoigne l'organisation des congrès internationaux. Donc cette prise de conscience conduit à une législation, d'abord en Allemagne et dans les pays scandinaves, hein, dans les années 1884 et suivantes. En France, c'est plus tardif, hein, 1898, et cette loi...
En Grande-Bretagne, c'est la même année ou presque, oui. 1897, je crois,
voilà. Quelque chose comme ça. Et donc, cette législation sur les accidents du travail est extrêmement importante parce qu'elle elle reconnaît d'emblée la question du risque, hein, et donc ouvre droit à réparation. Et ça débouche, bien sûr, sur une tarification du corps.
Oui, c'est ça, c'est le moment effectivement où le corps de l'ouvrier va finir par être... évalué d'une certaine façon en fonction de ce qui peut lui arriver. Il y a d'ailleurs un article dans le numéro, l'ouvrage que vous avez coordonné, Thomas Leroux, sur les risques industriels, sur cette question de la tarification du corps. Isabelle Lespinet-Moret, vous pouvez nous dire quelque chose sur ce moment-là, parce que c'est un moment presque révolutionnaire, pourrait-on dire, dans le domaine de la question de comment on appréhende ce qu'est un ouvrier dans une société donnée, à savoir la société de la fin du 19e siècle.
Ça pose un peu la question de le travail est-il une marchandise, hein, d'une certaine façon. Alors, il y a là aussi beaucoup de débats, parce que pour certains réformateurs, on devrait plutôt réfléchir en capacité de gain des ouvriers qui sont blessés ou qui sont tués, donc par rapport à leur famille. Et pour d'autres, donc, c'est vraiment le corps, la tarification du corps qui l'emporte. C'est le cas en Allemagne, et puis ça va être le cas finalement un peu partout, sur la pression des assurances, hein, des compagnies d'assurance sur les industriels.
C'est-à-dire selon la partie du corps qui est touchée, la gravité de cette...
Voilà, si vous perdez un bras, vous avez 30% dans une grille qui compte 12 strates. Si vous perdez un œil, là vous êtes au summum, parce que si vous perdez les deux, vous êtes aveugle, quoi. Donc il y a une tarification comme ça, et ce qui est intéressant, c'est que qu'elle soulève quand même des objections importantes. Et je pense notamment à Ricard, qui est maire et député sénateur de Rouen, qui à la fin du siècle dit « mais attention, il y a la dignité ouvrière quand même, hein, et puis il y a le savoir-faire professionnel. On ne peut pas réduire le corps de l'ouvrier à un morceau de son corps. »
Et vous qui êtes spécialiste de cette organisation internationale du travail qui se met en place tout de suite après la Première Guerre mondiale, j'imagine que un lieu international comme celui-ci, vous avez déjà parlé des congrès, mais là c'est une organisation pérenne qui va rester sur place et qui va donc utiliser les savoirs des médecins du travail, les savoirs des ingénieurs, les savoirs des représentants de l'État dans tous ces domaines. Et de tous les États.
Et des ouvriers.
Et des ouvriers, parce qu'il y a les syndicats. Et évidemment, cela doit faire un immense brassage et ça doit être extrêmement intéressant de voir le niveau des débats pour pouvoir mesurer ce qu'est un risque industriel. Mais une fois qu'on a mesuré ce risque industriel, à savoir s'il faut interdire la fabrication, par exemple, de tel ou tel produit qui peut être dangereux pour les gens qui y travaillent ou pour les gens qui sont à côté, ou alors, s'il faut imaginer un système de réparation postérieure, Isabelle Lespinet-Moulin.
Alors, c'est effectivement un jeu très complexe de circulation transnationale, hein, entre les savoirs des uns et des autres, entre les situations aussi de pouvoir au sein du conseil d'administration du Bureau international du travail, ou bien lors des conférences internationales, dans les commissions techniques. Et on voit à ce moment-là s'affronter des intérêts économiques, par exemple, les pays producteurs de plomb ne veulent pas du tout voir le plomb interdire, y compris dans ce cas-là, les délégations ouvrières et les délégations patronales peuvent se mettre d'accord pour la défense d'un produit dangereux. Hein, alors que, bien sûr, ça va à l'encontre de l'intérêt de la santé des travailleurs. Mais dans d'autres cas, c'est un système déjà bien établi et bien rodé, comme le système allemand, par exemple, qui bien souvent, sur la question des accidents, l'emporte.
Et c'est d'ailleurs étonnant parce que les grands initiateurs, enfin ceux qui sont à la tête, en tout cas, du Bureau international du travail tout de suite après la Première Guerre mondiale, sont des Français. Absolument. Et on aurait pu se dire, ils vont peut-être l'emporter avec la longue tradition de la Troisième République, de la place de l'État. Et en fait, ça n'est pas ce qui va se passer.
Non, parce que ce soit Arthur Fontaine ou Albert Thomas, et puis bien d'autres, ce sont des admirateurs du système allemand d'assurance. Il faut dire que les Allemands sont les premiers à avoir mis en place, les Allemands et les Autrichiens, des assurances et des statistiques du travail. Et tous les bureaux du travail dans le monde utilisent le système allemand des caisses de maladie sur les statistiques.
Comme référence.
Comme référence, absolument.
Thomas Leroux, c'est ça qui est intéressant. Intéressant de voir, c'est-à-dire à partir du moment où on quitte le niveau local dont on parlait, on va reparler avec Xavier Domalin, pour monter au niveau national, eh bien ça change, et puis au niveau international, ça change encore.
Alors évidemment, ça dépend beaucoup de l'échelle d'analyse, ces questions de risque, puisque on a l'échelle de l'usine, si on parle de pollution, on va être à l'échelle du territoire, ou ensuite, si on parle de système industriel dans son ensemble, tel qu'il se développe au 19e siècle, effectivement, on passe à l'échelle internationale avec des congrès internationaux qui se mettent en place puis ensuite l'Organisation internationale du travail. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le système de l'assurance a conquis en fait son dernier marché. C'est le marché du corps ouvrier. Après avoir conquis celui du risque incendie, du risque des machines à vapeur, du risque d'explosion en ville. En quelque sorte, il va jusqu'au bout de sa logique de colonisation de la régulation. Et ce qui entraîne finalement un effacement d'une régulation publique telle qu'elle se pratiquait auparavant.
Oui, Isabelle Lespinet-Moret, puis Xavier Domalin.
Alors, au sein de l'OIT, dans les années 30, enfin en 31 par exemple, on arrive à une sorte de syncrétisme entre l'action publique internationale et la position des États et d'une législation qui garantit un minimum, et puis effectivement l'influence des assurances. Et cette influence des assurances, elle est notamment véhiculée par une association qui s'appelle Safety First, qui vient des États-Unis, qui est arrivée en Europe par la Grande-Bretagne, comme d'habitude.
C'est étonnant, je ne sais pas ce que vous voulez dire.
Et qui ensuite intervient aussi dans les débats de l'OIT, et l'une des conventions, celle de 31, comporte un alinéa sur la voie montrée par Safety First. Et c'est une association patronale.
Xavier Domalin, sur ces questions justement de négociation, de discussion entre patronat, syndicats, ouvriers et environnement autour de cette question du risque industriel.
Alors, pour revenir justement sur ces histoires de mines, hein, je crois qu'il faut ne pas oublier aussi ce qui se passe sur le terrain. Par exemple, entre des ingénieurs des mines qui travaillent pour l'État et des ingénieurs des mines qui travaillent pour des compagnies privées, souvent il y a des solidarités de corps qui reviennent finalement à justifier l'introduction d'une nouvelle technologie très dangereuse pour les ouvriers et à marginaliser, minimiser le rôle des ouvriers et à imputer la faute d'un accident mortel sur le comportement de l'ouvrier et non pas sur la technologie. On a un exemple très célèbre dans les Bouches-du-Rhône, le percement d'une galerie entre la ville de Gardanne où il y a un bassin houillé jusqu'au port de Marseille. C'est un ouvrage titanesque. Il y a de nombreux morts parce qu'on a introduit l'électricité pour percer dans ce milieu humide. Mais à chaque fois qu'il y a des morts, les deux ingénieurs, des deux côtés, du côté de la compagnie et de l'État, s'entendent pour imputer la faute, non pas à la technologie employée, mais au mauvais geste de l'ouvrier qui, par ailleurs, n'a jamais été formé pour utiliser cette technologie.
Il y a deux idées, effectivement. Il y a la tarification du corps qui s'impose, et puis il y a le facteur humain, hein, dans les années 20 et 30. Et cette idée du facteur humain, elle vient à la fois des sciences sociales appliquées au travail, la psychotechnique notamment, hein, mais elle rejoint aussi une préoccupation de Safety First et puis de beaucoup de gens, qui est celle de l'éducation de l'ouvrier, et qui se confronte bien sûr au savoir-faire professionnel et à l'éducation et au comportement. Et du comportement, on peut glisser assez facilement à la prédisposition aussi.
Et puisque vous évoquez, en l'occurrence Xavier Domalin, ces mines de Gardanne et ce tunnel, il faut peut-être en venir à des questions qui sont encore permanentes, puisque on a entendu pendant tout l'été des débats autour des fameuses boues rouges qui polluent les calanques aux alentours de Marseille, et que vous, en tant qu'historien, eh bien, vous avez quelque chose à dire sur la permanence ou non des préoccupations environnementales d'un côté, des préoccupations de santé des gens qui vivent à côté, et en général de la façon dont se fait le lien entre ce territoire des Calanques, qui est un territoire théoriquement protégé, et l'arrière-pays, là, en l'occurrence à Gardanne, où les industries se sont développées à partir de à partir du début du 19e siècle.
Oui, l'usine d'alumine de Gardanne a été construite en 1893, et ensuite, dans les années 60, on a construit ce sea line, hein, cette conduite sous-marine, pour rejeter les boues rouges au large de la baie de Cassis. Et les débats actuels, alors je ne vais pas entrer dans le détail, c'est pas ma spécialité, mais en tout cas,
Rappelons que les débats actuels, donc, c'est d'avoir ces effluents qui sont au large des calanques de Cassis, qui sont des endroits protégés, et dont les pêcheurs, mais aussi les baigneurs, exactement, et tout un tas de gens disent que même si elles sont très loin, rejetées très loin au large des calanques, eh bien, il y a des effets de ces boues rouges sur l'environnement, sur les espèces animales et peut-être sur l'homme.
Alors, plusieurs observations. Les débats actuels autour de la conduite d'Alteo sont très semblables à ceux que l'on avait dans la première moitié du 19e siècle autour des cheminées rampantes. On a les mêmes rapports de force.
Cheminées rampantes, exactement, donc pour la soude qui devait...
On est là dans des conduites sous-marines, on était dans des conduites terrestres. C'est ma première observation. Deuxième observation, c'est que cette conduite d'Alteo masque un petit peu la réalité du problème. Parce qu'il y a une autre conduite souterraine qui est peut-être encore plus grave pour les calanques, c'est le tout à l'égout de Marseille. Le tout à l'égout de Marseille, depuis 1898, se déverse dans les calanques et nous n'avons une station d'épuration pour les matières solides que depuis 1988. Donc c'est aussi un gros problème qui interpelle les collectivités territoriales. Donc on fait beaucoup de bruit autour d'Alteo, mais il n'y a pas qu'Alteo dans ces calanques. Il y a tout à l'égout de Marseille et il y a tous les résidus de cette industrie du 19e siècle qui, malgré la cessation d'activité, sont toujours là et continuent à être lessivés et à se répandre dans les fonds marins.
Et donc ça vous fait penser, en tant qu'historien, effectivement, que ce travail que l'on peut mener sur la longue durée des questions environnementales et des risques industriels permettrait au moins peut-être d'éclairer les élus, les responsables, les élus de l'État ou les élus de la région autour de cette question pour pouvoir l'ancrer dans une durée plus longue.
Oui, puis peut-être pour éviter de reproduire des erreurs, notamment par rapport au travail qu'on a fait sur l'expertise au 19e siècle. On a mis en évidence des biais cognitifs, on a mis en évidence des erreurs méthodologiques, des effets de corruption politique, financière, etc. Et de prendre en compte ce qui s'est passé au XIXe siècle peut peut-être éviter, les experts d'aujourd'hui, à éviter de reproduire les mêmes erreurs.
Isabelle Lespinet-Moret, sur ces questions.
C'est la question du déni aussi, hein, qui est partout dans ces questions d'environnement, mais de santé aussi, de déni, ou bien d'erreurs méthodologiques, ou bien d'obstruction, hein, par des associations écrans. On pense à l'amiante, bien sûr, hein, le premier rapport d'inspecteur du travail 1906, la loi en France 1998, l'interdiction. Hein. Et par exemple, sur les maladies professionnelles, il y a effectivement encore plus de difficultés à passer la rampe de la connaissance et de la reconnaissance que pour les accidents du travail.
Et vous avez l'impression, Thomas Leroux, que des travaux comme les vôtres et de tous ceux qui sont autour de cette table, parce qu'ils sont nouveaux, parce que d'une certaine façon, cette question du risque industriel, on le disait au tout début de notre discussion, est peut-être un nouvel objet, un objet qui se développe, en tout cas ces temps-ci, et la parution de ce livre aux presses universitaires de Rennes, par exemple, nous le dit. Il y a une masse critique de chercheurs qui travaillent sur ces questions-là. Ça peut contribuer à éclairer le débat public ou pas du tout autour de la question environnementale, la question du travail, la question de la place des corps dans nos sociétés, par exemple.
Nous pouvons l'espérer.
Est-ce que vous avez des signes encourageants? Allez, j'ai plutôt dire, est-ce qu'il y a des signes encourageants?
On travaille pour être lu, pour être discuté, pour que le débat avance, et effectivement. Au niveau des politiques, je ne suis pas très optimiste parce que la petite expérience que j'ai d'avoir éventuellement travaillé avec eux ou de ce que je peux constater sur leur réception d'ouvrages historiques, elle est quasiment inexistante. C'est-à-dire que, bon, j'exagère peut-être un peu, le regard historique est quasiment inexistant sur ces questions, en tout cas, parce que, comme le disaient Xavier et Isabelle à l'instant, c'est que... Ce que la recherche historique amène actuellement depuis 10 ans, 20 ans sur ces questions de risque, c'est que et de pollution, c'est que les problèmes étaient déjà présents au XVIIIe siècle, mm-hmm. et que même ils étaient plus présents. C'est-à-dire que la conscience environnementale, même si le mot n'existait pas, elle était davantage là. Et qu'il y a eu un bouleversement dans l'ordre des régulations au XIXe siècle pour un passage industrialiste, c'est-à-dire... une société dans laquelle l'environnement...
Le progrès l'emporte en une certaine façon.
Le progrès industriel était prioritaire et l'environnement était à l'arrière-côté. Nous, ce qu'on montre en fait dans nos travaux avec les autres collègues qui travaillent sur ces questions, c'est de voir à quel point en fait il y a un processus effectivement cognitif, législatif, pour faire sortir le système industriel de la nature, entre guillemets, ou donc d'un système qui pourrait être un système de répression pénale, par exemple, pour le faire entrer dans l'administration, l'assurance, et donc pour légitimer une industrialisation qui remet finalement les questions environnementales à l'arrière-plan des préoccupations. Et on a encore dans ce monde, et c'est pour ça que j'ose espérer que nos travaux puissent être lus et discutés, mais je ne suis pas très optimiste sur le rôle des politiques.
Que, toujours dans ces questions environnementales, les travaux des historiens du climat, par exemple, qui pourtant servent beaucoup à éclairer ces questions-là, et dont on s'aperçoit qu'ils sont, il nous l'avait dit à ce micro il y a quelques mois, qu'ils sont assez peu écoutés par les dirigeants qui peuvent justement décider de l'avenir de la planète dans ce domaine, Isabelle Lespinet-Moret.
Par ailleurs, il y a deux facteurs aggravants de nos jours, hein. C'est la dérégulation du point de vue de la législation sociale et puis aussi la sous-traitance du point de vue économique industriel qui se développe énormément. Et donc il y a une recrudescence des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Vous rappelez, Thomas Leroux, une augmentation de 98% des nombres des accidents industriels en Chine entre 2010 et 2013. Et non, c'est pas sous nos yeux en l'occurrence.
Oui, mais en France, c'est de l'ordre de 10% quand même. Hein.
Ouais. Une petite insiste, c'est que on commence à parler du risque technologique, surtout dans les années 70, dans les sciences sociales, etc., en disant, Ulrich Beck, par exemple, en Allemagne, la société du risque. Maintenant, nous sommes conscients qu'il y a un risque industriel, professionnel, mais nous sommes en capacité, parce que nous sommes une société réflexive, d'apporter des solutions. Mais on se rend compte depuis 30 ans, en fait, qu'il n'y a jamais eu autant d'accidents industriels. Je ne vais pas en faire la liste ici, tellement ils sont nombreux. Et de très grave ampleur, hein, je pense au nucléaire, mais pas que. Et donc, plus on pense au risque industriel, finalement, plus il est présent.
Et vous, quand vous observez depuis votre observatoire d'Aix-Marseille, là où vous travaillez, Xavier Daumalin, ces questions au niveau de la région de la Provence sur laquelle vous avez travaillé, justement, vous avez les mêmes approches, justement, d'incapacité à faire comprendre à faire entendre aux opinions publiques, aux acteurs économiques et peut-être aux acteurs politiques l'intérêt de travailler sur ce travail des risques industriels.
Écoutez, l'expérience qu'on vient d'avoir sur les calanques dans ce travail interdisciplinaire avec nos collègues de l'IMBE me rend un peu plus optimiste. Peut-être que je serai démenti par les faits plus tard, puisque le parc national a décidé de se saisir de nos travaux pour à la fois sécuriser les sites, puisqu'on a permis d'identifier des sites qu'ils ne connaissaient plus, pour les sécuriser, pour essayer aussi de mettre en place des expériences d'ingénierie écologique pour éviter que la dispersion des contaminants ne dégénère, et puis peut-être aussi pour pouvoir lever des fonds et obtenir des financements pour permettre tout simplement pas de dépolluer, mais en tout cas de contenir la pollution.
Allez, pour terminer cette émission, racontez-nous quand même cet article que vous avez publié, issu d'un colloque international, entre autres, sur Portmew et sur la première manifestation environnementale dans les Calanques. Vous appelez ça une première manifestation environnementale en 1910 ?
Oui, c'est vraiment une manifestation qui fait la transition entre deux types de mobilisation collective par rapport à la défense de l'environnement. Et cette manifestation va marquer les esprits, elle va fédérer des tas d'associations qui n'avaient pas forcément de lien entre eux, et elle va servir de témoin mémoriel pour toutes les autres mobilisations ultérieures. Je pense par exemple à celle de Paul Ricard, lorsqu'en 1966 il se bat pour qu'on construise le Sea Line de la conduite de Gardanne. En 92, lorsque le poste de la mairie de Marseille veut construire dans les Calanques. Donc c'est vraiment une manifestation majeure. Mais en même temps, cette manifestation pose la question de l'instrumentalisation des revendications de type environnemental, parce que derrière cette manifestation de grande ampleur, à l'insu des manifestants, il y a une simple opération immobilière. Et c'est assez fréquent que l'on trouve ce genre de problème derrière. Ce qui pose d'ailleurs, pour nous historiens, la question de la juste mesure de cette opinion par rapport à la sensibilité environnementale.
Oui, parce qu'en l'occurrence, c'était Solvay, la société belge. Exactement. Qui exploitait une carrière dans les Calanques à Portmew, et on voit arriver tous les élèves de Mistral qui sont
exactement
là, etc., et qui disent c'est un acte de vandalisme, c'est l'attentat à la beauté naturelle du pays. Mais il y a évidemment des ressorts secrets que les manifestants qui sont venus en nombre par la ligne de chemin de fer,
et sans doute de bonne foi, mais les archives privées de l'entreprise nous ont permis effectivement de voir l'envers du décor.
Merci en tous les cas à tous les trois d'être venus nous expliquer combien cette question de l'histoire des risques industriels était importante. On attend avec impatience, Isabelle Lespinet-Moret, la publication de votre HDR, l'habilitation à diriger des recherches. Ce sera dans quelques mois peut-être.
Oui, j'espère.
Vous espérez. Donc, sur la santé au travail et sur l'OIT. Xavier Domalin, donc un livre tout récemment paru sur l'histoire industrielle des Calanques et de leur pollution, une histoire au présent, c'est chez REF 2C édition. Je prends REF 2 plus loin et C édition. REF 2C édition, donc c'était un ouvrage collectif sur cette question des Calanques et des risques industriels et de la pollution. Et puis pour vous, Thomas Leroux, outre le laboratoire des risques industriels que vous avez publié, donc votre thèse en...
Laboratoire des pollutions.
Des pollutions industrielles, pardon. Chez Albin Michel, c'était en 2011. Il y a risques industriels, savoir, régulation, politique d'assistance, fin 17e, début 20e, aux presses universitaires de Rennes, un collectif auquel vous avez participé d'ailleurs, Isabelle Lespinet-Moret. Et puis également le numéro de 2014 qu'il faut conseiller, du mouvement social, donc consacré, lui, le titre, c'est l'émergence du risque industriel, France, Grande-Bretagne, 18e, 19e siècle. Merci à tous les trois. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Nous avions la chance d'avoir avec nous à la technique Bruno Gagnard-Fontani et à la réalisation Renaud Delmar. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'y écouter aussi longtemps que vous le souhaitez, la télécharger pendant un an après sa diffusion. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC.